L'intérêt de ça, c'est effectivement ce dont on vient de débattre. C'est que, à partir d'une expérience de celle-ci, il y en a une autre dont on va parler à l'instant, effectivement, on apprend des choses les uns les autres. Et que tout ça, il faut le mutualiser un tout petit peu, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui vont se lancer dans des opérations évitent les erreurs des précédents et essayent de faire avancer le bouchon un peu plus vite, un peu mieux, un peu plus efficacement, etc. Donc c'est très important que des gens se lancent et fassent part des résultats qu'ils ont, y compris des choses qui peuvent nous paraître aujourd'hui comme des insuffisances, voire des erreurs à des moments donnés, parce que tout n'est pas écrit, tout n'est pas dit, et avec Guillaume, on a quelques expériences futures, notamment sur le prix d'hébergerie et sur la maîtrise d'ouvrage d'hébergerie qui valent leur pesant de cacahuètes dans la complexité des opérations en maîtrise d'ouvrage publique. Donc on va suivre justement au Masdieu, donc on va se rapprocher de l'Hérault, et où Christophe Bernier, donc un ancien salarié des Écolos qui nous a quittés sauvagement pour rejoindre la concurrence, non c'est pas du tout ça, mais qui travaille plus près de chez lui, et c'est un bonheur pour lui, c'est très bien. Et donc il y a sur un site qu'on connaît bien depuis longtemps, où il y a un berger, mais depuis très longtemps, et où il y a eu des feux pastoraux et des brûlages dirigés, suivis des séries de végétation pendant quelques années, pour savoir si effectivement tel ou tel type de gestion des pelouses ou des garrigues un peu plus serrées pouvait permettre de gagner en biodiversité. Donc on l'écoute.
Bonjour. Une petite anecdote pour commencer, puisque Jean-Paul l'a un peu dit entre mots, mais sur les garrigues du Mastier, il y a une nouvelle bergerie qui a été construite au début du programme. Et en fait, c'est avéré que c'était une très très belle bergerie. Et le 27 ans. Donc le toit.
Non, mais c'est bon.
Le toit de la bergerie s'est envolé. Oui. Donc le toit de la bergerie s'est envolé, il a fallu refaire une deuxième bergerie. Voilà, tout ça c'est de l'argent public. Donc ça fait beaucoup de retard sur des projets et du coup ben, ça grève énormément les programmes. Donc c'est une présentation complémentaire de la précédente que je vous présente. Donc on a travaillé, les écologistes de Vézère ont travaillé depuis 10 ans sur les garrigues du Masdieu dans l'Hérault. Et en fait, donc c'est un programme qui est très très lourd, qui concerne beaucoup beaucoup de sujets. Et nous on a travaillé sur une toute petite partie du programme, c'est-à-dire développer un suivi éco-pastoral des garrigues du Masdieu. Alors on a quatre partenaires principaux sur ce programme, qui sont donc les écologistes de Vézère qui étaient un peu les personnes qui pilotaient le programme. Nous avons travaillé aussi avec le SUAM. Donc on a beaucoup parlé du SUAM, mais on n'a pas dit ce que c'était. Le SUAM, c'est le service d'utilité agricole, montagne, Méditerranée. Donc ce service dépend de la chambre d'agriculture et il va sans doute encore changer de sigle, m'a dit Guillaume tout à l'heure. Donc c'est un service qui est capable d'aider les projets d'installation pastorale sur l'ensemble de la région languedoc-roussillon. On a travaillé bien sûr avec la DIREN et puis le département de l'Hérault qui a financé le programme. Alors, les garrigues du Masdieu, donc c'est un site qui est vraiment un laboratoire pour les écologues mais aussi pour les aménageurs dans la région. Donc il y a 10 ans, je vous fais un petit tableau un peu synthétique de ce qui s'est passé. Il y a 10 ans, sur les garrigues du Masdieu, il n'y avait plus trop d'agriculteurs, donc c'était un site en déprise. C'était un grand grand site, un grand grand domaine d'un seul tenant qui était en vente. Et bien sûr, quand cette situation arrive, ben, il y a un acquéreur qui se pointe. Et cet acquéreur avec un projet de centre d'enfouissement des déchets. Donc, ce n'était pas le seul projet. Il y avait aussi un projet autoroutier qui, lui, a été jusqu'à son terme. Et puis, bien sûr, sur un territoire comme ça, il y a plusieurs collectivités territoriales, notamment des communes, et puis ensuite le département qui est capable d'intervenir. Alors, voilà, ça c'est le garrigue du Masdieu. Telles qu'elles existent encore à l'heure actuelle, mais qui auraient pu devenir ça, puisque ça aurait été une grosse décharge pour l'agglomération de Montpellier ou une autoroute 3x2. Donc là, en fait, l'autoroute existe. C'est la A750. Donc voilà, ça c'est la carte de situation à l'échelle de la région de Montpellier. Donc on se situe à l'ouest de l'agglomération, à moins de 10 km de la ville de Montpellier. Donc là, c'est une vue un peu plus zoomée. Donc on est sur la commune de Montarno, en limite de commune avec Saint-Paul de Vannemar, les Murvelles et Montpellier au sud-est. Voilà. Donc c'est un grand domaine de garrigue. Donc là, sur ce domaine, vous voyez que sur une carte comme celle-ci, tout ce qui est en vert, ce sont des boisements. Donc ici, tout est en blanc. Donc ce sont vraiment des milieux ouverts. Alors, donc on part 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, on a réussi à inverser les tendances pour redynamiser ce territoire et pour qu'il ait une agriculture viable à long terme. Le foncier est maintenant maîtrisé par plusieurs propriétaires, y compris des propriétaires publics comme le Conseil général et les communes. Il y a une charte très très importante qui a été signée l'année dernière ou il y a 2 ans entre tous les acteurs concernés par le projet. Et puis les garrigues ont été restaurées. Et une partie des garrigues restaurées concerne le pastoralisme. Donc le berger qui existait déjà sur le site a été installé dans une nouvelle bergerie, dans une seconde nouvelle bergerie. Et puis le projet a été vraiment porté à bout de bras par les collectivités locales. Donc on passe de l'absence de projet à vraiment un projet bien structuré dans l'espace et dans le temps. Et donc le tout petit programme qui arrive, c'est le nôtre. Donc le programme éco-pastoral du Mazetieu. Alors un programme éco-pastoral, ça sert à quoi? Ça sert avant tout à évaluer des opérations qui ont été menées sur le site, en particulier des opérations de restauration, c'est-à-dire de rouverture des garrigues. Donc là, il y a 2 volets. Il y a voir un peu ce que ça implique sur la valorisation pastorale, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Et aussi sur la biodiversité, puisqu'on est dans un grand espace qui appartient au Causse d'Omelas. Donc le Causse d'Omelas, c'est un site emblématique méditerranéen, avec beaucoup d'oiseaux méditerranéens, avec beaucoup d'insectes, de plantes protégées, etc. Donc ça c'est le deuxième point. Le pastoralisme transhumant sur le site du Mazetieu a forcément une incidence sur les parcours, sur la végétation des parcours. Alors voilà, ça c'est une photo en bas, qui montre le résultat d'un brûlage pastoral. Donc un brûlage pastoral, c'est un feu qui est provoqué par le berger et qui est généralement fait en plein hiver, donc à une période de végétation dormance. Et ça, à droite, vous voyez le résultat d'un gyrobroyage. Donc le gyrobroyage, ici, a été fait mécaniquement, donc implique des moyens beaucoup plus lourds que le feu pastoral. Alors, pour rentrer dans le programme, donc il faut des personnes. Dans les personnes, on avait un berger, Bruno Serriès, qui est berger depuis longtemps sur le site. On a un botaniste, en l'occurrence c'était moi, donc disponible au printemps, ce qui n'est pas forcément évident, puisque quand on fait de l'expertise, au printemps c'est la période de bourre. Il faut être capable de passer quelques journées sur le site à faire des relevés botaniques à 4 pattes. Et puis nous avions Guillaume Ossibald, qui était notre technicien, qui nous a aidé à voir plus clair sur la mise en place de l'étude. Bon, quelques outils très très simples, un GPS, un appareil photo, des caméras, etc. Du coup, en fait, ce qui est le plus important, c'est les humains derrière, parce que le matériel, c'est un matériel qui ne coûte rien. Alors ça, c'est une carte vraiment complémentaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. Tout à l'heure, Séverine nous a montré une carte du pâturage annuel, c'est-à-dire comment se distribuent les moutons dans l'espace au fil des saisons. Et là, nous, on a une carte plutôt des travaux de restauration qui ont été mis en place en 2002, et 2003 et 2004. Donc c'était tout au début du lancement du programme. Donc vous voyez qu'il y a certains secteurs de garrigues qui ont plutôt bénéficié d'un brûlage, d'autres plutôt bénéficié d'une ouverture mécanique. Voilà. Sachant que tout ça a été analysé par la suite. Bon, on a mis en place 4 transects. Un transect, c'est une ligne imaginaire, mais qui est matérialisée par des piquets et qui permet de suivre un faciès. Un faciès de végétation, c'est, tout à l'heure on a parlé de la garrigue à Romarin, voilà, ça c'est un faciès de végétation. La garrigue à Chêne-Carmès, c'est un faciès, la pelouse à Braquet-Pomarmeux, c'est un faciès, etc. Dans chaque faciès, donc, nous avons mis en place un transect. matérialisé par des piquets. Donc là, c'est important parce que sur un espace qui fait 500 hectares, si vous ne prenez pas un point GPS, vous êtes incapable de retrouver le point l'année suivante. Et tous les ans, vous revenez au même moment, à la même période, et vous refaites le relevé de végétation. Voilà, donc ça se matérialise comme ça. Donc ça, c'est un des transects qu'on a mis en place sur la partie qui a été gyrobroyée. Donc vous voyez que ça, quelques années après un gyrobroyage, ben, on ne voit même pas que la garrigue a subi une quelconque action de gestion. Ça paraît complètement naturel. Ça ne l'est pas. Alors là, un relevé de floristique, c'est un peu imbuvable. Donc c'est un tableau qu'on remplit en fonction du nombre de plantes qu'on observe tous les mètres. Tous les mètres, on fait un petit relevé sur 20 cm, sur un carré de 20 cm de côté. On note la présence d'une plante, si elle est là, on met une croix, et ainsi de suite. Et sur 40 mètres de long, on obtient un relevé qui est très conséquent. Et ce relevé, il a l'intérêt de rendre compte de la richesse spécifique de la station étudiée, vraiment au sens réel du terme. Il y a un deuxième type de relevé qu'on a mis en place, qui est là un schéma en fait. C'est un relevé de type végétation qui permet de rendre compte de la végétation dominante sur un espace donné dans le territoire. Parce que sur un faciès, vous allez dire une garrigue à romarin, c'est très homogène. Ben non, c'est pas homogène du tout. Quand vous regardez dans le détail, au début, vous avez par exemple aucun buisson, et petit à petit, vous arrivez dans des parties qui sont très buissonneuses, où là, par exemple, on a au contraire des buissons qui ont disparu, qui sont matérialisés par un cercle. Voilà. Donc là, ce transect rend plutôt compte de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité du milieu. Bon, les moyens humains, ça dénote un peu avec la présentation de Séverine, parce que nous, eh ben, on est une association, donc on a des moyens très limités pour mettre en place une étude, donc on a vraiment été obligé d'être très très pragmatique. On n'avait pas forcément de budget, on a demandé des subventions, donc voilà, je peux vraiment détailler le nombre de jours qu'on a passé sur ce dossier. Alors voilà un brûlage pastoral. Alors vous voyez que les buissons de prunus derrière sont déjà en fleurs, donc là on doit être au mois de février ou au mois de mars, donc c'est la fin des brûlages pastoraux. Donc le brûlage pastoral, il peut être effectué quand le berger il accompagne ses moutons, et s'il a quelques refus à évacuer, et ben, il s'assure qu'il n'y a pas trop de vent et il peut les faire brûler. Voilà. Donc c'est une méthode qui n'est pas du tout lourde à mettre en place, mais qui doit respecter quelques règles de sécurité élémentaire. Alors ça, c'est une botaniste en train d'effectuer un relevé. Donc concrètement, on est à quatre pattes, on avance à quatre pattes tous les mètres, on fait un relevé et on a tout sur un relevé. Donc je vous présente rapidement les quatre relevés, les quatre transects qu'on a mis en place. Là, c'est un transect qui paraît assez buissonneux. Et en l'occurrence, ce sont des buissons de genêt scorpion. Donc là, c'est ces garrigues qui sont très caractéristiques sur les terrains un peu marneux autour de Montpellier et de Nîmes. Il y en a énormément. Alors, sur ce site-là, quand on a démarré l'étude, en 2004, on a rien mis en place. On a attendu l'année 2005 pour mettre en place une mesure d'entretien qui a été un brûlage, un feu pastoral. Voilà le résultat. On voyait que tous les refus, tous les buissons ont disparu. On se retrouve avec une garrigue qui est complètement ouverte et qui est complètement affleurante également. Alors là, ça va être un peu plus difficile à comprendre. J'ai essayé de représenter graphiquement les résultats. Donc sur la première ligne, vous avez en bleu en fait le nombre d'espèces, l'évolution du nombre d'espèces par transect, le transect numéro 1 en l'occurrence. Et sur la ligne violacée, vous avez le nombre d'occurrences, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a relevé une plante par mètre, au bout d'un moment qu'on a accumulé tout ça, ça fait un score. Le nombre d'occurrences, c'est le score en gros du transect. Voilà. Donc il y a des évolutions très significatives au fil du temps. Bon, donc quand on a mis en place le brûlage pastoral entre la première et la seconde année, du coup, normalement, en 2005, on a eu une réduction très 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 forte du nombre de plantes, du nombre d'espèces sur les transects, ce qui est complètement naturel. Et puis, dès l'année 2006, en fait, on a eu une rediversification végétale qui se concrétise en 2007. En 2007, c'est-à-dire trois ans après avoir mis le feu, on retrouve une diversité qui est botanique, qui était supérieure à celle avant le feu, que ce soit en nombre de plantes ou que ce soit en nombre d'espèces. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, j'ai pris cinq espèces caractéristiques de cet insecte, et en particulier deux espèces qui ont un très grand intérêt pastoral, qui sont le brachypode rameux tout en haut, et la filante de Montpellier en bleu. Donc ces deux espèces composent une ressource importante pour les moutons. Et puis à côté de ça, j'ai pris aussi quelques plantes qui avaient des évolutions significatives, mais qui sont des plantes tout à fait caractéristiques de Garry. En particulier un liseron, bon, le genet scorpion, c'est en latin, excusez-moi. Et puis la dame de 11 heures, qui est une plante bulbeuse de la famille des lys. Donc en 4 ans, vous voyez une évolution très très rapide de la végétation, avec la disparition momentanée du genet scorpion, mais je dis bien momentanée, c'est-à-dire on le fait brûler, bon, il va repartir de la souche, il ne disparaît pas complètement. Donc ça veut dire que dès la seconde année, la troisième année, ainsi de suite, il reprend de la vigueur, et c'est bien pourquoi il faut faire pâturer en fait une garée qui a été brûlée. Le second transecte, lui, il a été réouvert avant qu'on ne commence l'étude. Donc ça a été un problème, puisque on n'a pas l'état zéro. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est comme on a la garée qui se situe juste à côté, qui est très très proche, on peut estimer l'évolution du milieu. Donc là, on a une pelouse qui est assez homogène. Cette pelouse, vous voyez qu'elle est parsemée de genévrier, et puis elle est très très herbeuse. Donc là, on bascule des garrigues vers les pelouses, et c'est la pelouse à brachypode et à filante. Alors on retrouve un graphique qui ressemble énormément au premier, à la différence que là on n'a pas une rupture très très marquée. Mais vous remarquez quand même que là on a une rupture qui apparaît au niveau 2005 et 2006, et là on retrouve un peu une communication qu'on a eue ce matin sur la météorologie qu'il y a eu en Languedoc ces deux années-là, où on a eu un printemps très sec. Donc là, on a une réponse de la végétation très très nette sur le fait que quand il ne pleut pas au printemps, eh ben, la garrigue en prend un coup. Voilà. Donc quel que soit le mode de gestion qu'on va mettre en place, il faut aussi tenir compte des conditions météorologiques. Donc, même type de graphique avec les mêmes espèces, brachypode, affilante, le liseron qu'on retrouve en blanc, le genet scorpion qu'on retrouve également, et puis la dame de 11 heures, c'est la même sur. Donc là, il y a une belle progression. Le brachypode rameux, il se retrouve à son maximum, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de deux ans, il est capable de recouvrir la totalité du transecte. Donc ça explique qu'on a un girobroyer. La première année, la végétation commence à repousser, mais c'est très très lent. Et petit à petit, en fait, il y a des espèces dominantes qui vont vraiment prendre le dessus. C'est le cas ici, sur ce transecte du brachypode. Alors, c'est intéressant, mais ça aurait été encore plus intéressant que ce soit la filante qui progresse vraiment rapidement, puisqu'elle elle a vraiment un intérêt d'un point de vue pastoral. Alors, le troisième transecte était très particulier, puisque Rio, le berger, était limité dans la partie est de son parcours par un bois qu'on appelle le bois de la Rouvière. Et dans le bois de la Rouvière, il y a quelques clairières de pelouse. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre en compte une des lisières sur 4 ou 5 ans pour voir si, en mettant des opérations notamment de déclaircissement du sous-bois, on pouvait rendre attractif la lisière pour les moutons. Donc ça, c'était en 2004, un sous-bois classique de chêne vert et de chêne pubescent, c'est-à-dire il est très enchevêtré, il est très dense. Notre travail consistait à l'éclaircir, c'est-à-dire à enlever un tronc sur 4. Voilà. Donc bon, là, c'est pas du tout la même vue. L'intérêt, c'est que là, du coup, on libère un peu le houppier, il y a de la lumière qui rentre dans le sous-bois, donc ça permet un peu à de la végétation herbacée de pousser. Alors là, du coup, on voit pas vraiment à quoi ça a servi, puisqu'il n'y a aucune cassure, en fait, dans l'évolution des espèces ou du score total, si ce n'est en 2006, juste, parce que là, cette fois-ci, on a fait l'ouverture, on l'a fait la seconde année, si ce n'est juste après l'ouverture, où là, il y a eu énormément de germination dans le sous-bois. Ces germinations d'arbousier, de laurier, etc. Mais qui ne sont pas du tout des plantes intéressantes d'un point de vue pastoral. Alors là, bien sûr, en sous-bois, on n'a jamais 100% de végétation au sol. Là, en l'occurrence, on n'en a même pas 50%. Il y a quelques espèces qui profitent un petit peu de l'ouverture, qui sont notamment des espèces qui vivent sur les bordures forestières, qu'on appelle les ourlets. Donc ça, c'est le laurier thym en bleu clair, et puis les autres espèces qui ont énormément de mal. Donc là, quand on arrive à un stade boisé comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, troisième transect, il est intéressant, dans l'occurrence c'est le quatrième, parce que là, on est dans une garrigue qui est haute, qui est fermée. Donc on se retrouve plutôt dans la situation des gorges du Gardon, où là on a une garrigue qui n'a pas été entretenue depuis longtemps, et on se demande comment on va pouvoir récupérer un intérêt pastoral là. Et bien là c'est pareil, on a choisi d'utiliser le brûlage pastoral. Donc dans un endroit où on avait l'impression qu'on n'arriverait à faire rien, vous voyez en une seule saison la différence, et ben on retrouve un sol qui est complètement ouvert, qui est caouteux, et on voit déjà le printemps suivant l'herbe qui commence à repousser. Bien sûr, les buissons aussi repoussent. Donc là, on est intervenu entre 2004 et 2005, on retrouve exactement la même forme de graphique que le transect qui était la pelouse à Filante. Donc là, l'impact de la sécheresse a été manifestement majeur. Donc là, par contre, on a un graphique qui est très très tranché, puisqu'on partait d'une situation très fermée à une situation très ouverte. Donc là, on a vraiment une rupture, notamment dans le bleu clair qui concerne le jeune escorpion. Alors par contre, vous voyez que la filante, elle est complètement indifférente, c'est-à-dire vous faites brûler, l'année suivante, vous revenez, vous comptez exactement le même nombre de pieds, la même densité. Donc elle, bon, le fond, on peut vraiment l'utiliser, mais par contre, ça ne va pas la stimuler. Contrairement au brachypode rameux et à certaines graminées qui vont vraiment profiter d'un peu. Voilà. Ça, ce sont des plantes qui repoussent très rapidement après un feu, la sphodèle et le panico. Alors, les enseignements. Donc là, je vous ai présenté 4 ans de résultats. Il y a une cinquième année de résultats analysés qu'on n'a pas fait encore. Mais d'ores et déjà, on peut dire que vraiment les modes de gestion ont une grosse incidence sur la biodiversité, mais aussi sur la ressource pastorale. Donc, suivant que vous girobroyez ou que vous mettez le feu, que vous débroussaillez les mains, bien sûr, vous n'obtenez pas du tout le même résultat sur la végétation. Il y a certaines espèces qui vont profiter énormément d'un girobroyage, comme la filante. Il y a d'autres espèces, comme par exemple le brachypode, qui lui va profiter beaucoup de feu pastoral. Bon, la restauration elle est d'autant plus rapide et efficace qu'on intervient sur des garrigues qui ne sont pas trop enfrichies. Donc là, c'est le transept qui est forestier. Une fois que vous arrivez à de la forêt, ben, vous n'arrivez pas du tout à récupérer de la garrigue. C'est terminé. C'est un processus assez irréversible. Donc ça, il faut en tenir compte, puisque si on veut réinstaller un berger dans un endroit qui est trop enfriché, ça risque d'être un échec. Bon, les facteurs climatiques, on en a déjà parlé, c'est important. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaie de suivre aussi sur le terrain, c'est de voir si sur les transects qu'on suit, il y a une correspondance avec des espèces animales emblématiques, comme les pigrièges, comme des criquets protégés, si la flore, si les moutons et si les animaux intéressants vivent au même endroit. Et a priori, ça correspond assez bien. Bon voilà, il semble reproductible ce petit programme. Ça veut dire que si d'autres collectivités veulent le mettre en place dans d'autres coins du Gard, de l'Hérault, a priori ça semble possible, avec des moyens limités, sauf qu'il faut trouver un botaniste. Voilà, ça c'est quand même une condition indispensable. Et puis en conclusion, je pense que vraiment le pastoralisme transhumant en garrigue, c'est vraiment la solution idéale qui permettra de sauver la biodiversité des garrigues, puisque je ne pense pas qu'en mettant des moyens mécaniques trop lourds et en essayant de les financer sur des périodes trop courtes, on arrivera à un autre objectif qui est de la préservation de la biodiversité méditerranéenne. Alors, je vais quand même vous présenter quelques espèces emblématiques. Une petite sauterelle à un stade larvaire qui peut devenir très grosse, elle peut devenir grande comme la main, c'est la magicienne dentelée. Et cette espèce donc méditerranéenne vit spécifiquement dans les zones de pelouse et de garrigues thermophiles. Donc au Mas-Dieu, dans les sites qui ont été réouverts, que ce soit par le feu ou par le girondroyage, et bien on retrouve des densités de cet orthoptère très, très importantes. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment un effet direct sur la biodiversité. Là, on a un criquet qui, lui, est herbivore, qu'on appelle l'Arcyptère languedocienne. Donc lui, c'est une espèce qui est endémique des Causses de la région de Roussillon. Donc c'est pareil, là, sur le site du Mas-Dieu, depuis qu'on a mis en place les opérations de restauration, il y a des densités très importantes de cet insecte. Et puis, bien sûr, on retrouve des parcours qui sont fleuris, où il y a une grosse diversité végétale, bien plus que dans des sites qu'on laisserait évoluer spontanément. C'est-à-dire que pour qu'une garrigue soit riche aussi, il faut qu'elle soit entretenue. Une petite plante protégée qui vit dans les lavoles du Mas-Dieu, l'étoile d'eau. Donc là, cette plante, elle dépend absolument de la présence des moutons, parce qu'il faut que les moutons puissent piétiner le bord des mares pour que cette plante puisse germer en fait. Donc si vous enlevez les moutons ou si vous mettez trop de moutons, cette plante disparaît. Voilà, une des vues en fait de la partie qui a été remise en culture au Mas-Dieu. Voilà, je vous remercie.